Il est 13h sur Europe 1.
Europe 1 13h.
13h, 14h, Thomas Chenel.
Bonjour à tous et bienvenue à la une de l'actualité de ce jeudi 18 avril. Je veux que ces drames cessent. Les mots de Gabriel Attal à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Ce matin, il a dévoilé son dispositif pour faire face à la violence des jeunes. Le détail dès le début du journal. Qu'est-ce qu'un salaire décent? Le fabricant de pneus Michelin augmente tous ses salariés. Plus aucun ne sera rémunéré au SMIC. Marseille et Lille jouent leur avenir en Europe ce soir face au Benfica Lisbonne et Aston Villa. C'est du football, bien sûr. Vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous. 13h02, la tendance météo, Mickaël Poteau.
Et bien toujours cette perturbation, pluie, grêle, orage et vent descendus sur le centre et le sud du pays. Seule la façade atlantique et le nord auront un temps plus clément et des températures similaires à hier. Je développe tout ça juste après votre journal, Thomas.
Europe 1.
Pour son 100e jour à Matignon, le Premier ministre était à Viry-Châtillon dans l'Essonne.
Où la semaine dernière, un collégien, Chemseddine, a été mortellement passé à tabac. Gabriel Attal a insisté sur le déchaînement de violence au sein de la jeunesse actuelle. Arthur Delaborde, vous êtes sur place pour Europe 1. Le locataire de Matignon appelle à un vrai sursaut d'autorité.
Oui, c'est une mobilisation générale de la nation pour renouer avec sa jeunesse que Gabriel Attal appelle de ses voeux en allant jusqu'à déplorer l'addiction d'une partie des adolescents à la violence. Le Premier ministre lance un cycle de concertation avec tous les acteurs, maires, associations, parents, professeurs, mais aussi avec tous les groupes politiques, y compris l'opposition.
Il faut un sursaut d'autorité, nous sommes prêts à le donner. Je donne 8 semaines, pas une de plus, à ce travail collectif pour aboutir. La réponse que je propose s'articule autour de 3 axes principaux. D'abord, c'est la question des parents. Ensuite, il nous faut une réponse directe, rapide et adaptée à chaque manquement. C'est la question des peines, de la justice des mineurs. Enfin, l'accompagnement de nos jeunes est aussi au cœur de ce que nous voulons faire.
Au-delà de la méthode, le Premier ministre avance des pistes concrètes. Il plaide pour que les élèves perturbateurs soient sanctionnés dans l'obtention de leur diplôme. Il se dit prêt à ouvrir le débat sur des atténuations à l'excuse de minorité devant la justice. Sur le sujet de la laïcité, qui est un de ses marqueurs politiques, Gabriel Attal dénonce l'entrisme d'idéologie contraire à la République, évoque notamment, je cite, « le racisme islamiste qui va croissant et contre lequel nous devons lutter sans relâche, en particulier à l'école ».
Aujourd'hui, soyons francs, de plus en plus souvent, les troubles ou les violences dont nous entendons parler à l'école ont un sous-texte identitaire ou religieux. Je vous le dis, il n'y aura pas de guerre des religions à l'école. Car à l'école, la seule règle qui vaut, c'est la laïcité.
Enfin, parmi les autres mesures souhaitées par Gabriel Attal, la possibilité qu'un jeune puisse être envoyé en internat loin de son quartier avant qu'il ne tombe vraiment dans la délinquance. Le Premier ministre se rendra justement lundi à Nice pour visiter le premier de ces internats.
Merci Arthur Delaborde en direct. Alors sur ces concertations contre la violence des jeunes, les manquements parentaux, le contrôle des écrans, l'entrisme religieux et la protection des écoles, nous y reviendrons juste après le journal avec nos chroniqueurs politique Jean-Claude Dacier, Olivier Dartigolle. Et avec vous, vous nous appelez également au 01 80 20 39 21. À la une ce matin également, c'est le commentaire du président du Sénat. Gabriel Attal n'avait pas encore fait ses annonces que Gérard Larcher sanctionnait déjà l'action de Matignon sur Europe 1. Il juge sévèrement le bilan de l'exécutif.
Être à Viry-Châtillon, c'est en fond symboliser l'échec de la politique du président de la République depuis 7 ans dans notre société. Échec. Une société qui est devenue plus violente. Une société qui voit se dégrader son école. Une société qui voit en quelque sorte le sentiment d'impunité monter. Nous avons besoin d'actes. Nous n'avons pas besoin de nouveaux Grenelles. Nous n'avons pas besoin de nouveaux débats. Nous avons besoin d'actes.
À Marseille, cette fois, une mère et sa fille sont en garde à vue depuis hier après avoir frappé en début de semaine une directrice d'école du 11e arrondissement. Gifle, coup de pied parce qu'une élève n'a pas participé à une sortie scolaire faute d'une autorisation signée par les parents. L'autre illustration de cette violence, c'est la mort de Philippe à Grande-Synthe dans le Nord. Ce jeune homme a été roué de coups en début de semaine sur un parking. Deux mineurs de 14 et 15 ans sont actuellement en garde à vue. Une marche blanche sera organisée demain matin.
Contre la violence des mineurs, l'exécutif veut une grande consultation nationale.
À l'image de ce qui a été fait avec le Grenelle des violences conjugales, sans attendre le ministre de l'Intérieur qui vient d'arriver en Guadeloupe, prononce un couvre-feu pour les moins de 18 ans à Pointe-à-Pitre contre la flambée de violence de ces dernières semaines. Pendant 2 mois, il leur sera interdit de sortir entre 20h et 5h du matin, Mayalène Trémollet.
C'est une initiative qui s'inscrit dans une série de mesures annoncées depuis la Guadeloupe par Gérald Darmanin pour lutter contre la délinquance. Un couvre-feu présenté comme une des solutions trouvées par le ministre de l'Intérieur pour lutter contre la propagation de la délinquance chez les plus jeunes.
L'État ne laissera pas faire une délinquance de plus en plus jeune, de plus en plus armée. J'ai demandé aux policiers et aux gendarmes en prévision donc pendant tout le mois des opérations place nette, comme on en fait en hexagone, de lutte contre les points de deal, contre la circulation des armes, le problème principal que connaît la Guadeloupe aujourd'hui.
Le ministre qui déclare vouloir harceler les délinquants pour que la peur change de camp. De son côté, le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, s'est félicité de cette mesure, saluant enfin du concret pour sa ville qu'il avait qualifiée de coupe-gorge, rappelant que des jeunes délinquants avaient brûlé 70 poubelles encore la semaine dernière. Selon les chiffres de la préfecture, l'archipel de la Guadeloupe compte 6 fois plus d'homicides et 20 fois plus de vols à main armée que la moyenne nationale. En mars dernier, une commerçante avait été tuée lors d'un braquage.
C'est une information qu'Europe 1 vous dévoile ce matin. L'an dernier à Paris, 77% des viols recensés sur la voie publique ont été commis par des personnes de nationalité étrangère, selon les chiffres de la préfecture de police. Car, Jean-Baptiste Marty, sur 36 personnes mises en cause, 28 n'étaient pas françaises.
Parmi ces étrangers, 20 sont déjà connus de la police, dont 4 pour d'autres faits d'agression sexuelle. Des viols essentiellement commis par des hommes, pour la plupart toxicomanes, sans emploi et sans domicile fixe. Au total, 97 plaintes ont été déposées en 2023, rien que dans la capitale. Un chiffre constant depuis quelques années, mais inquiétant pour Grégory Joron du syndicat Unité SGTFO.
C'est quand même quasiment un tous les 3 jours sur la plaque parisienne et sur la voie publique. C'est un phénomène qu'on arrive en tout cas pas à éteindre.
Des viols pour la plupart commis dans les lieux touristiques, comme au Champ de Mars, où l'intégralité des personnes interpellées dans le cadre de ces affaires sont en situation irrégulière.
C'est censé être des plages qui sont 0% délinquance, puisqu'on est en attente d'accueillir les millions de touristes pour les Jeux Olympiques. Pour l'instant, et à l'heure où on se parle, ce sont encore des endroits où malheureusement on concentre énormément de problématiques. Et potentiellement, après une certaine heure de la nuit, oui, il y a encore malheureusement un risque à ce qu'une femme se promène seule pour rentrer de soirée ou même du travail.
Un fléau que tente d'endiguer les autorités, notamment à travers le lancement des opérations Place Nette début avril dans les secteurs touristiques de la capitale.
Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
13h, 14h, Thomas Chenel.
13h09, quand un groupe coté montre l'exemple sur les salaires.
Ce sont des mots rares dans la bouche d'un grand patron. Le SMIC n'est pas un revenu décent. Le président de Michelin annonce que les rémunérations au sein du groupe de pneumatiques répondront à des critères de décence. On retrouve l'envoyé spécial européen à Clermont-Ferrand, Aurélien Fleureau. Quels sont les critères retenus, Aurélien ?
Eh bien Thomas, le point de départ, c'est permettre à chaque salarié de subvenir aux besoins essentiels de sa famille avec un salaire. Et ce n'était pas forcément le cas de la totalité des 132 000 employés de Michelin. Des cas particuliers ont été identifiés en France, mais aussi au Brésil, en Inde ou aux États-Unis. Le détail avec Florent Méné, président du groupe.
Alors on appelle ça le salaire décent. Ça, c'est quand on suit la nomenclature définie par les Nations Unies. La logique chez nous, c'est permettre à une famille de 4 membres sur un salaire d'avoir suffisamment pour aller au-delà de la nourriture, du logement, mais aussi avoir accès à du loisir, des vacances, du transport et de la culture.
Alors ce salaire décent va donc bien au-delà du salaire minimum et il pourra fortement varier selon les régions, comme le détaille Floriane Viala, directrice de la rémunération de Michelin.
Pour la France, on est autour de 39 000 euros de salaire annuel brut pour Paris, la région parisienne, ce qui représente un peu moins de 2 fois le SMIC. Et pour Clermont, sans surprise, on est un peu plus bas, on est autour de 25 600, ce qui est en gros 20% au-dessus du SMIC.
Donc ce sont les prix du logement qui expliquent en grande partie ces écarts. Michelin travaille sur ce sujet depuis bientôt 3 ans. Cette annonce devrait relancer le débat sur le salaire minimum.
Aurélien Fleureau à Clermont-Ferrand pour Europe 1. Inquiétude autour de Biogarant, le géant français des médicaments génériques est à vendre. Le groupe Servier veut vendre sa filiale aux 900 médicaments, dont l'amoxicilline, le médicament...
Merci à vous. Ciao.
le plus prescrit en France. C'est 8600 emplois en France. L'Union européenne confirme de nouvelles sanctions contre l'Iran après l'attaque contre Israël. Seront particulièrement visés les fabricants iraniens de missiles et de drones. De son côté, l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes aériennes dans la bande de Gaza et dans le sud du Liban, où deux combattants du Hezbollah, alliés de l'Iran et du Hamas, ont été tués. L'envoyé spécial européen s'est rendu justement en Haute-Galilée, la région la plus au nord d'Israël, sous les bombardements au quotidien. Si la plupart des villages ont été évacués, les agriculteurs, eux, restent pour travailler. Wilfried de Villers a rencontré un couple d'éleveurs de volailles. La ferme est à quelques encablures de la frontière. Le récit pour Europe 1.
Tous les matins, Ilana et Machia montent dans leur 4x4 et font la route à l'aube jusqu'à Margaliot. Une heure pour rejoindre leur moshav, leur village communautaire niché à flanc de colline. Téléphone à la main, Ilana me montre une photo.
Là, c'est le village. Et là-haut, sur la montagne, c'est le Liban, avec le Hezbollah qui nous domine. 3 ou 4 kilomètres avant le village, je suis saisie aux tripes. J'ai le cœur qui bat la chamade parce que j'ai la trouille.
Mais Machia, 70 ans, ne veut pas abandonner. Ses poules, c'est tout ce qui lui reste, dit-il, une lueur de fierté dans le regard. Alors il travaille, malgré les risques.
2 ou 3 fois par ramassage des œufs, les alarmes retentissent. Je dois courir à l'abri à cause des bombardements. C'est la roulette russe. Si ça nous tombe dessus, on est tous morts.
La ferme est si proche de la frontière que ce couple de juifs d'origine iranienne peut voir flotter dans le vent les drapeaux du Hezbollah. Les combattants du groupe terroriste les narguent même régulièrement.
Le Hezbollah sait que notre village est une communauté de juifs iraniens. Alors le jour de Shabbat, ils mettent souvent de la musique perse et ils nous crient de là-haut. Un jour, on vous prendra ces terres parce qu'elles nous appartiennent.
Il y a 2 semaines, une roquette est tombée à quelques mètres de leur maison. En Haute-Galilée, Wilfried de Villers, Europe 1.
3 diplomates français expulsés du Burkina Faso, déclarés persona non grata, accusés d'activités subversives. Ils ont 48 heures pour quitter le pays d'Afrique de l'Ouest. Depuis un putsch militaire, les relations entre Paris et Ouagadougou se sont considérablement dégradées.
Assisterons-nous à de nouveaux exploits français dans le football européen ce soir?
Les Marseillais et les Lillois tenteront de se qualifier en demi-finale. Lille et Aston Villa bataillent en Ligue Europe Conférence à 18h45. À l'aller, les Lillois s'étaient inclinés 2-1, même score lors de la première manche entre Marseille et Lisbonne. En Ligue Europe, l'OM affronte donc le Benfica Lisbonne à 21h. Cyril de la Morinerie, les Marseillais ont des raisons d'y croire.
Oui, car les Marseillais pourront d'abord compter sur Pierre-Emerick Aubameyang, qui a fait trembler les filets au Portugal. Ensuite, le stade Vélodrome sera plein. On attend plus de 65 000 spectateurs. Et les supporters, espèrent une soirée magique, comme en 2018 face à Leipzig. Il y a 6 ans, au quart de finale de la Ligue Europa, Marseille, qui avait perdu à l'aller, s'était imposé 5-2 face au club allemand. Mais Marseille, qui reste sur 5 revers de suite, devra réaliser un très grand match face au Benfica, admet l'entraîneur Jean-Louis Gasset.
On est conscient qu'on a un but de retard, qu'on joue contre le quart de finaliste de la Champions League la saison dernière, que Benfica est un grand club. À nous à faire que cette rencontre soit hors norme.
Et Lille, qui jouera aussi à domicile ce soir, devra réaliser un exploit. Aston Villa, 4e de Première Ligue, vient de battre Arsenal, quart de finaliste de la Ligue des Champions. Les Lillois, privés de leur maître à jouer, Eden Zegrova, espèrent se qualifier pour la première demi-finale européenne de leur histoire.
Dans les autres résultats en Ligue des Champions hier, le Real Madrid élimine le tenant du titre. Victoire au tir au but contre Manchester City. La demi-finale des Espagnols, ce sera contre le Bayern Munich et eux ont éliminé Arsenal. C'était un 18 avril 1974, il y a 50 ans tout juste. L'auteur de Jean de Florette, de Manon des Sources, nous quittait. Marcel Pagnol, l'académicien, l'écrivain, le dramaturge, le cinéaste, s'éteignait à Paris, loin de sa Provence natale, de son Garlaban couronné de chèvres. 50 ans plus tard sur Europe 1, son descendant, Nicolas Pagnol, lui rend hommage.
C'est un exemple assez unique. Alors, on pourrait peut-être penser à Cocteau aussi, sans doute avec moins de succès au théâtre. C'est quelqu'un qui aimait avant toute chose créer des personnages, parler de sa région. Et le mode d'expression lui importait peu. Avec bonheur, il a eu du talent dans tous les médias qu'il a pu utiliser. Marcel, c'est avant tout des thématiques qui sont non pas modernes, mais intemporelles. L'amitié, la fidélité, le respect, la concorde, l'amour de la nature et l'entraide. Je crois que ça fait du bien à tout le monde et c'est pour ça qu'il est toujours lu, il est toujours regardé, il est toujours autant aimé.
Et d'ailleurs, dans 2 ans, un musée Pagnol doit ouvrir à Allo, petite commune au pied du Gard-Laban où le jeune Marcel passait ses vacances racontées dans la gloire de mon père. Il est 13h16 sur Europe 1, comme chaque jour, l'heure de faire un point sur les marchés avec Claire Lemaître de Boursier.com. Claire, le CAC gagne encore un peu de terrain.
Et il retrouve les 8000 points en hausse de 0,3%, 8009 points au programme de bonnes nouvelles du côté des entreprises. Edenred, par exemple, grimpe de 3,4%. Le marché apprécie le chiffre d'affaires du spécialiste des titres restaurants. C'est du vert aussi pour Danone, après sa publication trimestrielle, plus 1,8%. Essilor Luxottica aussi gagne plus de 1%. Et puis, premier pas en bourse applaudi pour Planisware. L'éditeur de logiciels s'envole de 26% pour sa première cotation à Paris. Donc, une opération réussie et une capitalisation à plus d'1 milliard d'euros. Ailleurs en Europe, les marchés sont en petite hausse, plus 0,2 pour Londres, plus 0,1 pour Francfort, plus 0,3 à Paris pour le CAC 40, 8009 points.
Merci Claire Lemaître de Boursier.com, on vous retrouve ce soir. La météo, Michael Poteau, un ciel de traîne pour une bonne moitié du pays.
Parfaitement, et cela concerne une bonne partie sud de la France, à savoir tous les départements en dessous de la ligne Biarritz-Reims, et ça fait du monde. Si cela vous concerne, alors prévoyez cet après-midi des averses soutenues avec des orages parfois, de la grêle aussi, de la neige en montagne, 700-800 mètres, sauf sur les Pyrénées à partir de 1300 mètres, et du vent, bien sûr, depuis lundi, 40 à 60 km par heure, plus fort en s'approchant de la Méditerranée. Ailleurs, on note un beau soleil uniquement dans le secteur de Marseille, le long de l'Atlantique, de la Bretagne à Bordeaux, des éclaircies et des averses éparses pour la Normandie, l'Île-de-France, le Nord et la Champagne-Ardenne. Les températures sont similaires à hier, 8 à Saint-Étienne, 10 à Besançon et Annecy, 11 à Dijon, 12 à Boulogne, 13 au Havre, 14 à Orléans et Avignon, 16 à Brest, Nantes et Nîmes, 17 à Laval et 19 à Quimper et Bastia.
Merci Michael. Dans un instant, le plan de bataille sur la violence des jeunes présenté ce matin par Gabriel Attal. On en parle sur Europe 1 avec vous et avec nos chroniqueurs politiques, Jean-Claude Dacier, Olivier Dartigol. Ils nous rejoignent et s'installent dans le studio Europe 1.
Europe 1.
Avec Thomas Schnell cette semaine, et ça continue avec le débat en compagnie de vos chroniqueurs du jour.
Le violent réquisitoire de Gabriel Attal, on en parle aujourd'hui avec Olivier Dartigol et Jean-Claude Dacier. Bonjour messieurs.
Bonjour.
On peut résumer le discours du Premier ministre à Viry-Châtillon ce matin par ce réquisitoire contre l'addiction aux écrans, l'entrisme idéologique ennemi de la République, le repli sur soi, la perte d'autorité. Aujourd'hui, c'est la République qui contre-attaque.
Ça fait beaucoup, hein. La République contre-attaque.
C'est ce qu'il a dit, sont ses mots. Est-ce que les annonces sont à la hauteur de la crise qu'on voit avec cette succession de drames depuis plusieurs semaines à l'école ?
Moi, j'ai pas beaucoup d'annonces. Je vais vous parler franchement. Je ne sais pas trop quoi penser du discours que j'ai écouté religieusement, évidemment, ce matin. J'ai eu le sentiment que peut-être le Premier ministre parlait peut-être un peu tôt. Il nous a fait part de beaucoup de pistes, de pas mal d'intentions. Les mesures sont plutôt rares, pardonnez-moi, elles sont même quasi absentes, c'est peut-être normal. Il nous a surtout annoncé une grande concertation juste avant la fin et avant le vote des européennes, ce qui ne peut pas être totalement inutile, puisqu'en gros, si j'ai bien compris, ceux qui vont se concerter, alors je ne sais pas trop qui il y aura, le maximum de monde, j'imagine, à l'habitude du macronisme, nous aurons des nouvelles, peut-être avant, mais en tout cas au plus tard, dans 8 semaines.
Olivier Dartigol, bon, ce sont des mots qui étaient attendus par les acteurs.
Je voulais dire aussi que non seulement il avait peut-être parlé trop tôt, mais j'ai eu le sentiment partagé qu'il parlait peut-être un peu tard. Quand on compare ce qu'il a dit avec l'ampleur du désastre, pardonnez-moi, on en parle sur cette chaîne, et pas seulement sur cette chaîne, depuis des années, en tout cas depuis des mois, c'est-à-dire l'ampleur du divorce entre une partie, je suis d'accord avec lui, minime, minoritaire, espérons-le, de cette jeunesse, dans lequel il n'a pas cité une fois le mot immigration, ce qui quand même quelque part me pose à moi un certain nombre de problèmes. Donc j'ai eu le sentiment qu'il constatait enfin ce que le président de la République aurait dû constater et réagir depuis fort longtemps, à savoir qu'en effet, la situation dans les rues devient très préoccupante, qu'elle est préoccupante dans les écoles depuis longtemps, et j'en oublie. Donc au total, j'attends, j'espère que la mesure de la situation telle qu'elle m'apparaît à moi est claire désormais aux yeux de l'exécutif et que des mesures vont suivre. On n'a pas parlé de la justice, mais je pense que
Olivier
va
en parler. On a eu les mots aujourd'hui, des mesures concrètes, c'est ça qui manque, Olivier Artigol.
Je partage ce que dit Jean-Claude sur une idée que je résumerai ainsi. L'hypercommunication peut donner l'illusion de l'action, mais elle ne remplacera jamais l'action. Nous avons un Premier ministre très alerte, très allant, très dynamique. C'est un politique, avec une équipe autour de lui qui gère son image. Il a été nommé à Matignon et il doit faire face à ce qu'est l'enfer de Matignon qui a été décrit par beaucoup de premiers ministres. Avec une échéance pour lui, puisqu'il a été présenté au moment de sa nomination comme l'arme anti-Bardella, souvenez-vous-en. Et un peu sur la jurisprudence Abaya, qui a été un moment Attal important dans le pays. À savoir, je prends une décision et elle est effective dès le lendemain. Mais cette jurisprudence Abaya, depuis 100 jours, elle ne s'est pas renouvelée sur un certain nombre de sujets. Il y a eu la crise agricole, où beaucoup de questions ne sont pas réglées. Il y a une question aujourd'hui qui apparaît au cœur des préoccupations et de l'actualité concernant la justice, et notamment la justice des mineurs, où là, il va falloir en effet un certain nombre de réflexions et de solutions. Mais ce que je n'arrive pas à saisir dans ce qui peut être l'attalisme, c'est que pour moi, ça s'inscrit dans ce qu'est le macronisme. Et encore faudrait-il qu'Emmanuel Macron, et je termine à cette idée, puisse laisser un peu plus d'espace politique à son Premier ministre. Je pense que le président devrait se consacrer essentiellement à la dimension internationale, et Dieu sait qu'il y a des sujets chauds, brûlants, incandescents, pour essayer d'installer davantage la marque de son Premier ministre. On a l'impression qu'il fait du cabotage d'un sujet à un autre, mais sans qu'on ne puisse dire réellement quelles sont ses priorités et comment il compte atteindre des objectifs qui se fixent.
On va écouter justement la parole performative, on l'espère, du Premier ministre de ce matin à Viry-Châtillon.
Il faut un sursaut d'autorité, nous sommes prêts à le donner. Je donne 8 semaines, pas une de plus, à ce travail collectif pour aboutir. Mesdames et messieurs, la réponse que je propose dans le cadre de ce sursaut d'autorité s'articule autour de 3 axes principaux. D'abord, il nous faut prendre le mal à la racine. C'est la question des parents, des écrans, des séparatismes. Ensuite, il nous faut une réponse directe, rapide et adaptée à chaque manquement. C'est la question des peines, des sanctions, de la justice des mineurs. Enfin, l'accompagnement de nos jeunes doit nous rappeler que tout n'est pas affaire de répression, mais que la prévention, l'attention, l'environnement que l'on crée pour nos jeunes est aussi au cœur de ce que nous voulons faire.
Les mots de Gabriel Attal contre l'ultraviolence des mineurs, on en parle avec nos 2 chroniqueurs politiques sur Europe 1, mais nos invités, nos auditeurs surtout, sont avec nous. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Vous êtes à Lyon, qu'est-ce que vous avez retenu du discours de Gabriel Attal ?
Alors moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est le mot sursaut d'autorité. Et en fait, ça fait 30 ans que je suis dans le métier de l'enseignement. Et donc, j'ai travaillé dans les établissements difficiles, dans les établissements de quartier. Moi, j'ai travaillé en 2000 dans un établissement qu'on appelait, qui était édicté plan violence. Plan violence, 75% de population défavorisée. J'étais vraiment au cœur d'un quartier. Et quand je suis arrivé en 2000, je m'attendais à quelque chose de très compliqué. Et en fait, je suis arrivé, les élèves à la sonnerie se rangeaient, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas d'élèves qui couraient dans tous les sens. Dans les couloirs, tout fonctionnait bien. Et en fait, ce qui fonctionnait, c'est qu'il y avait 11 surveillants et éducateurs. Il y avait 11 adultes uniquement en charge de la surveillance des élèves. Et en fait, les élèves étaient cernés. Voilà. Et moi, ce que je retiens, quand il parle de sursaut d'autorité, c'est que actuellement, alors, quand j'en suis parti, il n'y en avait plus que 5. Et c'était à nouveau le bazar.
Les assistants d'éducation qui manquent à l'appel. Olivier D'Artigol.
Je suis totalement d'accord avec notre auditeur sur la nécessité de renforcer la présence des adultes auprès des jeunes et des adolescents, notamment ceux qui sont sur les comportements qui posent le plus de problèmes. Et il faut suivre de près ce que nous disent certains spécialistes de la réponse pénale. Je pense par exemple à Béatrice Brugère, qui est une magistrate, qui produit pas mal d'idées aujourd'hui pour voir comment on peut rendre les réponses plus efficaces.
On va voir comment rendre ces réponses plus efficaces juste après la pause sur Europe 1 et le rappel des titres dans le journal permanent.
01 80 20 39 21 pour réagir au débat d'Europe 1 13h avec Thomas Schnell.
Europe 1.
13h32 sur Europe 1. Il y a un besoin de sursaut d'autorité. La culture de l'excuse, c'est fini. Ce sont les mots de Gabriel Attal ce matin à Viry-Châtillon dans l'Essonne à l'occasion des 100 jours du Premier ministre à Matignon. Des paroles et des actes, Gabriel Attal annonce notamment que les collégiens seront scolarisés tous les jours de la semaine de 8h à 18h et que les perturbateurs seront sanctionnés dans l'obtention de leur diplôme. Les mineurs visés à Pointe-à-Pitre par un couvre-feu dès lundi prochain à partir de 20h, annonce faite par Gérald Darmanin en déplacement en Guadeloupe, la Guadeloupe où l'on compte 6 fois plus d'homicides qu'en métropole. Et puis enfin, en football, Marseille-Benfica et Lille-Aston Villa, ce sont les affiches ce soir des quarts de finale retour en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Vous écoutez Europe 1, il est 13h32.
Et Europe 1 13h continue avec Thomas Schnell et vos chroniqueurs du jour pour le débat.
Jean-Claude Dacier, Olivier Dartigolle ont parlé de ce plan d'action déployé par Gabriel Attal à partir de ce matin, ont déploré à l'instant avec notamment avec Thierry par téléphone les mots seulement et maintenant les actes, mais surtout cette concertation voulue par Emmanuel Macron, un Grenelle, encore un. On a envie de se dire, est-ce que d'abord ça ne brouille pas le message de Gabriel Attal aujourd'hui ?
Il a pas cité le mot Grenelle, hein ?
Non, ça y ressemble en tout cas.
On en parlait hier.
Et surtout, est-ce qu'on est encore dans la concertation?
Écoutez,
est-ce qu'on a encore besoin?
Je pense que ça me paraît tardif, je le disais tout à l'heure. Je pense que tout ça vient bien tard. Le constat, il est incontestable, un peu minoré, parce que franchement, il se passe dans ce pays depuis quelques temps des horreurs absolues. Je ne sais pas si vous avez vu les photos sur les réseaux sociaux de ce garçon qui a été tué. Pourquoi on ne le sait même pas? Téléphone, semble-t-il.
Téléphone.
Une paire de chaussures, peut-être, qu'on lui a retiré. Il a le visage défiguré à un point qui est inimaginable et non explicable. C'est pour ça que je ne veux pas être exagérément critique, ce n'est pas le moment et ce n'est pas l'heure, mais quand on parle de sursaut d'autorité, sursaut me paraît superflu. C'est l'autorité, tout seul, qu'il faut évidemment essayer de redonner à l'État français qui en a perdu beaucoup en cours de route. Encore une fois, le constat, il est ce qu'il est, incontestable. Il m'apparaît comme tardif. J'espère que dans les concertations qui vont s'amorcer, puisqu'il faut encore faire de la concertation, il me semblait que c'était le boulot du gouvernement de prendre un certain nombre de mesures. Ce matin, il n'y a pas une mesure. Il n'y a pas une décision forte. Il n'y a rien. Alors, tout est renvoyé au débat. Dans 8 semaines maximum, comme par hasard, 15 jours avant les Européennes.
Les Européennes du 9 juin. Alors, parlons-en des mesures proposées. L'internat pour sortir le jeune de son quartier,
encore,
de sa famille.
C'est possible.
Dès qu'il y a des problèmes, avant qu'il tombe dans la délinquance, quand on s'aperçoit qu'il commence à avoir de mauvaises fréquentations, à traîner dans la rue, nous proposerons aux parents de l'envoyer à l'internat.
L'ancien prof que je suis, l'ancien pion aussi.
C'est la rigolade.
Et président de mission locale, donc j'ai eu plusieurs problématiques et expériences. Me fait retenir qu'une chose, dès le premier signal, le signal faible, où le jeune va mordre le trait, s'il y a une prise en charge, nous obtenons des résultats. Ce qui m'ennuie dans ces annonces sur le thème des Grenelles, il y a eu beaucoup par le passé de conventions citoyennes, de cahiers de doléances après les mouvements des Gilets jaunes qui dorment aujourd'hui dans les sous-préfectures. Le diagnostic, il est assez partagé au final. C'est-à-dire que l'examen du réel, nous l'avons et nous le chroniquons très régulièrement ici.
Hélas, oui.
Il peut y avoir des arbitrages politiques à rendre sur le niveau de réponse. Ça, c'est, oui. j'ai envie de dire, c'est la vie démocratique.
Oui.
Et après, il y a une responsabilité politique à assumer. Je ne sais pas ce que Emmanuel Macron veut faire très précisément de son second mandat. Il y a eu une forme de vacuité de son discours de réélection. Et le Premier ministre doit aussi gérer cette difficulté-là.
On va écouter le Premier ministre sur les internats, justement, à l'instant.
Aider les parents, c'est parfois aussi prendre des mesures plus fortes encore. Il y a, dans notre pays, des dizaines de milliers de places en internat qui sont désespérément vides. J'y vois une opportunité. Une opportunité pour couper rapidement et efficacement un jeune de ses mauvaises fréquentations. Mon idée est simple. Avant qu'un jeune ne tombe vraiment dans la délinquance, quand on s'aperçoit qu'il commence à avoir de mauvaises fréquentations, à traîner dans la rue, nous proposerons aux parents que leur enfant soit envoyé en internat, loin de son quartier et de ceux qui le poussaient à plonger. Pour ces jeunes, l'internat sera une opportunité, celle d'apprendre, celle de retrouver un cadre, celle d'éviter de sombrer dans la spirale de la délinquance et parfois du crime.
Jean-Claude Dacier, on se demandait quelles mesures concrètes étaient avancées par le Premier ministre.
Pour l'instant, elle était esquissée. Moi, j'ai été interne il y a quelques années, déjà. On avait un pion, un surveillant dans les grands dortoirs qui vous surveillait. Là, avec l'oubard que vous allez récupérer dans la rue, à minuit ou à 2h du matin, vous les envoyez en internat la nuit même, quel moyen ? Qui va leur parler ? Qui va les accueillir ? Qui va les garder ? Pour le moment, encore une fois, je ne veux pas me montrer excessivement pessimiste. Je souhaite que tout ça se mette en place, mais il y a un manque cruel de moyens dont le Premier ministre n'a pas beaucoup parlé ce matin. Et je termine, parce que je pense qu'on ne va pas en parler pendant toute l'émission. Il y a un problème quand même important, c'est ce qui entérine la politique Dupond-Moretti, c'est les parents. Là encore, on va aider les parents. Les familles monoparentales pour beaucoup. Les familles qui n'arrivent plus à dominer et à s'occuper de leurs gamins. Avec quels moyens ? Qui va aller leur parler ? Qu'est-ce qu'on va leur...
Alors sur les parents, il propose de réprimer plus largement les manquements aux devoirs parentaux, les obligations parentales, que les parents défaillants puissent faire l'objet de travaux d'intérêt général et également de mettre une amende pour les parents qui ne répondraient pas aux convocations chez le juge.
Maximum 45 000 euros. Vous avez beaucoup de familles, vous, monoparentales ou autres, qui ont 45 000 euros à donner et à répondre favorablement aux amendes qui leur seraient infligées, c'est pas très sérieux.
La mention dans le diplôme et le fait que les élèves soient sanctionnés sur leur cursus, sur leur diplôme, que l'on puisse mettre s'ils ont été perturbés, selon vous, Olivier Dartigol, c'est quelque chose qui est d'augure.
C'est microscopique par rapport à l'océan de... Après, attention, sur internat, par exemple, le fait de pouvoir sortir un jeune de son quartier, d'un climat toxique pour lui, et essayer d'apporter une réponse en justement lui proposant un autre espace, pourquoi pas ? Moi, je suis un grand nostalgique, par exemple, des colonies de vacances. Je pense que quand les villes populaires permettaient à ces jeunes de ne plus être en bas d'immeuble et d'aller s'oxygéner, de rencontrer d'autres gamins dans d'autres lieux, c'est quelque chose qu'on pourrait... Vous savez, les colonies, elles ont fermé parce que malheureusement, elles retombaient que sur l'effort des municipalités. Et parfois, en termes d'arbitrage politique, mais ça passait plus en termes d'investissement et de fonctionnement. Bon, voilà, il y a des sujets. Mais encore une fois... aujourd'hui, le Premier ministre est davantage commentateur de la réalité que véritablement acteur d'un plan d'urgence avec des moyens. Parce que
Olivier Dartigol, il y en a un qui a été décrété en Guadeloupe. Vous savez que le ministre de l'Intérieur est en déplacement là-bas. L'urgence, c'est ça, c'est ce couvre-feu qui sera instauré à partir de lundi. Interdiction pour les mineurs de sortir de 20h à 5h du matin. Pendant 2 mois pour lutter contre la délinquance.
Pour les mineurs,
donc jusqu'à 18 ans. Tous les moins de 18 ans n'auront pas le droit de sortir entre 20h et 5h du matin. C'est ça l'urgence, c'est à ça que la France est confrontée dans ces territoires d'outre-mer.
C'est pour mettre, pour répondre à une flambée. À Pointe-à-Pitre notamment, le maire avait alerté il y a quelques semaines. Vous avez donné quelques chiffres sur 6 fois plus d'homicides, 9 fois plus en termes d'homicidité. Et 20 fois plus de vols à main armée que la moyenne nationale. Donc il y a un climat très très difficile. Le ministre intérieur y répond avec cette proposition pour essayer de faire baisser la température. Mais il faudra, comme cela a pu être proposé pour d'autres territoires, aller plus loin sur des mesures pérennes. Et notamment en termes de renforcement des moyens de la puissance publique.
On déplore surtout que les Antilles soient devenues la plaque tournante désormais de la drogue, de la cocaïne, commerce qui est envoyée vers la France. Le commerce d'armes également, qui fait l'objet de luttes. Les places Natixis XL, alors à Mayotte, là on est dans l'océan Indien. On recevait Marie Guévenoux d'ailleurs, qui était avec nous, la ministre chargée des Outre-mer avant-hier sur Europe 1. La drogue aujourd'hui, Jean-Claude Dacier, qui participe à cette délinquance, à cette violence dans les Antilles, en particulier là en Guadeloupe.
Je ne suis pas un expert de ces questions, mais il me semble que la réponse à votre question est oui, bien évidemment, puisqu'il y a de l'argent facile, qu'il y a des tombereaux d'argent qui arrivent et qui sont répartis comme le souhaitent les grands dealers. Donc oui, on a un vrai problème. Et sur ce point, moi je rends je dis bravo aux efforts de Darmanin, qui a vraiment essayé de... Bon, on parlait de combien d'interpellations, Olivier ? Des milliers d'interpellations au terme de ces opérations anti-drogue. Oui, combien de peines de prison ? Combien de condamnations ? Qu'est-ce que tout cela a donné ? Personne n'en sait rien pour le moment. Il y a encore un mot sur lequel le Premier ministre n'a rien dit tout à l'heure, qui me paraît être très dommageable au plan de l'esprit civique et du respect de ce que nous sommes, c'est la suppression du service national. On a parlé un temps du retour de cet effort collectif pour essayer de revoir ensemble et de mélanger un peu ensemble les jeunes de ce pays. Le Premier ministre n'en a rien dit ce matin.
Une question dans un instant sur Europe 1, le SMIC. Qu'est-ce qu'un salaire décent en France ? Le SMIC ne sera plus le salaire minimum au sein du groupe Michelin. C'est rare dans la bouche d'un patron, d'un groupe coté, qui va augmenter la rémunération de ses salariés. On voit ça juste après la pause.
Et pour intervenir auprès de Thomas Schnell, appelez-nous 01 80 20 39 21. A tout de suite pour Europe 1 13h.
Europe 1.
De 13h à 14h avec Thomas Schnell cette semaine et on poursuit le débat avec vos chroniqueurs, Thomas.
Oui, avec Jean-Claude Dacier, avec Olivier d'Artigol, on se demande ce qu'est un salaire décent. Ce sont des mots rares dans la bouche d'un patron. Le SMIC n'est pas un revenu décent. Le président de Michelin annonce que les rémunérations au sein du groupe de Peneux, de Clermont-Ferrand, vont être augmentées. C'est quoi un salaire décent ?
Je ne sais pas, ça dépend de la santé des entreprises dans lesquelles les salaires décents sont censés travailler. Si l'entreprise va mal, de toute façon, il ne versera pas, le patron, de salaire convenable. Là, je suis un peu surpris par la déclaration du patron de Michelin. S'il a les moyens de payer ses ouvriers au-delà du SMIC, qu'il ne s'en prive pas. Je pense en réalité que le SMIC est une erreur, une de plus, au plan économique que nous avons commise depuis fort longtemps.
Ça ne protège pas ?
Ça ne protège rien, c'est une piège au contraire à chômage. Vous êtes fixé au SMIC et pour en sortir, c'est toute une affaire. Vous avez en plus des augmentations qui sont intervenues, qui ont fait du SMIC, seul, enfin pas seul, mais souvent seul, qui sont venues coller aux salaires les plus inférieurs qui sont versés, mais qui sont juste au-dessus du SMIC. Ça crée du malaise social, ça crée des difficultés. Les grands pays ont oublié le SMIC depuis longtemps. Ça ferait, en principe, partie des grandes réformes à faire, mais je plaide dans le désert. J'ai
un léger
illusion.
Oubli.
Aucune illusion.
Cher Jean-Claude Dacier, un léger oubli. D'abord, le SMIC, c'est 1398 euros net. Très compliqué.
Augmentation automatique.
Très compliqué de vivre avec moins, avec 1400 euros.
Ah ben là-dessus, il n'y a pas de doute, oui, bien sûr.
Deuxième chose, pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais dans le salariat français, dans le privé, il y a eu une telle smicardisation du salariat français ? 17% des salariés du privé, dans le secteur non agricole, sont payés au SMIC. Oui. Il y a encore deux ans, c'était que 12%.
Moi,
pourquoi ? Tu as oublié de le dire.
C'est un piège.
Parce qu'il y a une politique massive d'exonération des cotisations sociales patronales qui fait que ça fait une trappe à bas salaire et que dès que vous êtes au SMIC ou un peu plus que de le SMIC, ces exonérations font que les patrons, laissent leurs salariés sur ce niveau de salaire et toute augmentation après fait que ça leur coûte très cher. Il y a donc un vrai problème.
Une vision un peu collectiviste.
Non, généreuse. Et première chose. Et après, que le fait que des patrons, des grands patrons, puissent aujourd'hui dire que la politique de modération salariale, qui ne touche pas Carlos Tavares, est un problème dans notre pays, tant mieux. Tant mieux. Et le patron Michelin peut faire le prochain meeting à la fête de l'humain.
Bravo. Vive la fête de l'humain.
Oui,
on accueille et bravo d'Artigol. Je vois que vos positions économiques ont que
toujours
peu évolué.
Il ne vient pas de la fête de l'humain. Alain est avec nous, un auditeur au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Alain, vous nous appelez des Yvelines. Alain, je me permets de préciser que vous êtes ancien cadre chez L'Oréal. Que pensez-vous des déclarations du patron de Michelin ? Le SMIC est-il un salaire décent ?
Alors, j'ai bien lu l'interview du patron de Michelin. Je suis complètement d'accord avec Jean-Claude Dacier, évidemment.
Aïe.
Et ce que vous n'avez
pas
relevé...
Ça ne m'étonne pas, merci. Bravo, monsieur.
C'est ce que fait Michelin. Michelin met en place cette politique dans un certain nombre de pays, et notamment dans plein de pays où il n'y a pas de SMIC.
Mais oui.
Comment font-ils ? Ils font appel à un cabinet extérieur qui calcule des moyennes. Et donc, d'une part, je salue l'entreprise qui souhaite rémunérer ses collaborateurs, les motiver, etc., par rapport aux moyennes,
très bien. Au passage, L'Oréal a fait ça il y a déjà pas mal de temps, et pas seulement sur les éléments de salaire, sur d'autres éléments comme les congés parentaux, choses comme ça, dans des pays où ça n'existait pas. Mais vous n'avez pas besoin du SMIC pour faire ça. À côté de cela, pourquoi le PDG de Michelin se mêle-t-il d'avoir un jugement en tant que PDG de Michelin sur le niveau du SMIC ? Effectivement, le SMIC est une aberration, mais en plus, aller dire il est trop élevé, il n'est pas assez élevé, j'ai envie de dire, c'est pas son problème, qu'il se contente de payer ses salariés correctement.
Merci Alain. Alors, messieurs, il y a une vraie question du coût de la vie aujourd'hui en France, atteint...
Mon point de vue soit bien compris. Je n'ai pas dit que le SMIC, c'était la richesse et qu'on pouvait tout se permettre. Bien évidemment que non. Mais ce qu'oublie mon camarade d'Artigol, c'est le poids des charges dans ce bon Dieu de pays qui fait que la plupart des patrons... Pourquoi voulez-vous que les patrons, si leur entreprise marche, s'ils gagnent bien leur vie, pourquoi voulez-vous qu'ils s'échinent et s'acharnent à laisser leurs ouvriers les plus mal payés ?
Jean-Claude Dacier.
Laisser la liberté jouer est-ce que vous un pensez, peu,
Jean-Claude,
et notamment la liberté
Jean-Claude
économique.
Dacier, est-ce que vous pensez, comme le pensent certains économistes libéraux, que la répartition de la richesse produite entre le coût du travail... et le coût du capital,
non.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait rééquilibrer un peu vers le travail ?
Les dernières années sont trop allées à la rémunération du capital. Parce qu'effectivement, le point de vue, si vous voulez, de la gauche au pouvoir était tellement ridicule et tellement contre-productif que nous avons en effet, nous en sommes arrivés à une situation qui a pénalisé les salariés et qui a désindustrialisé ce pays.
Oui.
C'est grave. Et ce que je reproche au président actuel de la République que j'ai pris en un certain temps pour un libéral, c'est qu'il n'insiste pas assez sur ces questions. Il faut évidemment libérer l'économie de ce pays, il faut alléger les charges, mais pour alléger les charges, il faut faire des économies, et apparemment on en est incapable. Oui.
Mais c'est vrai qu'il y a deux chiffres qui se sont percutés cette semaine. Oui. 36,5 millions il y a quelques jours, le SMIC aujourd'hui, 1 400 euros. On parle de Carlos Tavares et on parle des employés de Michelin.
Ce qui nourrit une colère plus ou moins sourde dans le pays, parce que rien de ce qu'a fait les Gilets jaunes n'est réglé, c'est quand vous travaillez et que votre salaire ne vous permet pas les petits bonheurs de la vie. Faire le resto, aller au cinéma avec les enfants, que chaque dépense doit être décomptée et qu'à la fin, vous n'y arrivez plus alors même que vous travaillez.
Oui, ça c'est le compliment habituel de
mais
des
ça veut dire que ça, quelque chose ne va pas.
Mais bien
non,
sûr,
je viens pas avec le couteau entre les dents. Je te dis Jean-Claude que quand tu es à temps plein et que ton salaire ne te permet de survivre,
c'est sûr.
Nous n'exagérons rien. Mais si, parce que quand tu es à Paris
mais
à 1 400 euros,
on est le pays le plus généreux du monde.
Quand tu es à Paris avec 1 400 euros, comment tu fais?
Mais je suis d'accord. Le problème
vivre
est
à Paris avec 1 400 euros,
le problème,
c'est
qu'il faut rendre l'économie de ce pays performante, faire en sorte de créer de la richesse, de créer du travail et créer de l'emploi.
Avec moins de
régulation.
Tout
ce que vous décidez depuis 40 ans va à l'inverse de ses objectifs. Un peu quelque part.
La droite n'a pas été au pouvoir.
La droite n'a pas été au pouvoir pendant
40 ans.
Je suis aussi sévère avec la droite qu'avec la gauche.
Parlons également de cette mesure donc, de Michelin qui vise toutes les régions du monde. C'est-à-dire, comme l'expliquait Alain tout à l'heure, notre auditeur, qu'effectivement, il va voir dans chaque pays, il va augmenter en fonction des besoins de chaque région et pas seulement de la France. Puisque, effectivement, c'est le rôle d'un grand groupe.
Oui,
Michelin
groupe
a déjà œuvré plusieurs fois dans la protection sociale, la protection des familles. C'est le rôle que peut incarner aujourd'hui une entreprise leader, fabricant de pneus.
Il nous en faudrait 10.
Pourquoi il n'y en a pas plus des Michelin?
Il nous en faudrait 10 des Michelin. Mais parce que il y a beaucoup de grands patrons qui disent tiens, on va aller s'installer à Amsterdam. Comme ça, D'Artigol ne risquera pas de promouvoir l'augmentation.
Mais pourquoi ils sont à Amsterdam?
Je suis comme toi, je veux dire. Quand on annonce le salaire de Tavares à 36 millions, je me dis, il y a un petit problème. Et puis, je me rappelle quand même que Mbappé, lui, touche 70 et que ça choque personne. Faudrait quand même savoir un peu où on va.
Vous défendez, c'était la défense de Carlos Tavares.
Je vais vous dire ce que je souhaiterais.
Carlos
je souhaiterais qu'il y, ait,
un joueur de foot.
Qu'il y ait 10 Tavares à la tête d'entreprise française. Parce que ce qu'il a fait depuis 15 ans est exceptionnel.
Il gagne toutefois 7 fois plus que la plupart des constructeurs, des patrons de constructeurs européens.
Quand vous venez faire votre émission, vous n'avez pas de prime pour nous poser une question. Il n'y a pas votre salaire, plus la prime, parce que vous avez posé des questions.
Ben non.
Monsieur Tavares,
eh bien,
il a eu une prime de 10 millions pour mettre en place la filière électrique. Alors que ça relève de son travail de dirigeant.
Ah,
comme si là, vous veniez, vous avez posé une question, on va mettre une petite prime.
Oui, c'est ça. Difficultés. Donc tout le monde est capable de faire Tavares. Tout le monde.
Parmi les...
Ah, non, mais c'est... Je vais vous dire...
Je t'assure.
Je vais vous dire, j'ai travaillé 20 ans à TF1. À TF1, quand la maison marchait bien.
Je me le mets en colère aujourd'hui.
Et c'est encore aujourd'hui, on avait les primes. C'est ça qui comptait. On avait de bons salaires et on avait des primes et on était actionnaires. Voilà ce que c'est qu'une société qui gagne de l'argent et qui marche bien.
Parmi les difficultés qu'ont les employés qui sont payés au SMIC, c'est le premier budget des Français, c'est le logement.
Oui,
le logement en France est dans une véritable crise et on sait que les fonctionnaires ont du mal à se loger. C'est le ministère de la fonction publique qui a révélé ce chiffre. 20% des demandes de logements sociaux seulement ont été satisfaites dans la fonction publique d'État. 21 000 logements attribués pour 105 000 demandes, c'est peu.
Pour les fonctionnaires, il y a eu le gel du point d'indice, ce qui permet de calculer leur salaire de 2010 de mémoire à 2022. Gel du point d'indice, alors que pendant ces 12 années, l'inflation, elle, ne s'est pas stoppée. Ce qui fait que vous avez des catégories de fonctionnaires, je pense à eux, notamment catégories C et B, qui sont les personnels d'exécution. C'est ceux qui rendent les politiques publiques, qui ont un salaire aujourd'hui qui ne permet plus, dans certains cas, de se loger. Et donc, il y a aujourd'hui, à peu près, on a vu les chiffres passer, un nombre considérable de fonctionnaires qui sont en attente d'un logement social ou d'un logement intermédiaire. Et donc, c'est une vraie difficulté.
C'est un problème de
pilotage. Pour des policiers, pour des hospitaliers.
Non, c'est vrai que
Jean-Claude Assé, c'est un problème de pilotage.
Les
sur
HLM, c'est une fois encore, ça a beaucoup aidé au lendemain de la guerre. La politique du logement, mais au jour d'aujourd'hui, ça a complètement dérapé. Il y a non seulement des gens qui n'ont rien à faire dans les HLM et qui y sont toujours, alors qu'on a besoin d'un certain nombre de logements et d'appartements pour des fonctionnaires ou d'autres. Tout ça est à revoir de A à Z, mais je ne vois pas beaucoup de réformes de structure pointer le nez, alors que c'est ce dont on a cruellement besoin si on veut s'en sortir.
Pour loger les fonctionnaires, faudrait-il étendre, comme le propose le député de la majorité David Amiel, d'étendre la garantie visale, donc d'avoir des garanties au-delà des 30 ans.
Peut-être, mais il faut surtout construire, livrer du logement social. Quand je vois que des communes préfèrent payer des pénalités que de construire du logement social, il y a quelque chose qui dysfonctionne gravement.
Oh, mais les maires ne sont même pas responsables de ce qui se passe dans les HLM. Arrêtez.
Non, je te parle de la livraison de logement.
Oui, le logement social. Tout est fait en dépit du plus élémentaire bon sens dans ce pays. On n'a que ce qu'on mérite, je vous assure.
On a besoin de plus d'HLM aujourd'hui. On a besoin de plus de logements.
Si on a besoin de plus d'HLM, on a besoin de plus de logements, ça ne fait pas nombre d'un doute.
La technique de la fin des HLM à vie qui avait été proposée par le ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il faut plus de contrôle aujourd'hui?
Il y a beaucoup de bailleurs sociaux qui fait que quand vous sortez, il y a déjà des choses qui sont prévues. Mais encore une fois, nous sommes à la marge. Il faut livrer du logement social, il faut augmenter les fonctionnaires. Mais ça me semble être des réponses de bon sens. Sinon, ça ne passe pas. Voilà, la quadrature du cercle, c'est pas réalisable. Donc, il faut du logement social. Et il faut de bons salaires.
Et il faut pouvoir contrôler davantage ceux qui sont dans les logements sociaux aujourd'hui.
Oui, je pense qu'il faut regarder un peu ce qui s'y passe, mais ça a besoin aussi, les HLM, d'une profonde réforme. Et notamment, les maires doivent à peu près savoir ce qui se passe sur leur territoire, si on veut qu'ils se décident à construire. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays.
Tu sais que souvent, les maires sont les présidents des bailleurs sociaux.
Oui, enfin, bon, c'est pas vrai partout, mais encore une fois, je suis pas un expert de la situation du logement en France. Pour l'instant, on est dans une crise qui semble peut-être s'amoindrir. Mais c'est vrai qu'il y a peu de domaines, cher ami, vous devriez vous interroger, il y a quand même peu de domaines d'activité de l'État qui s'occupe à peu près de tout aujourd'hui, qui soit totalement exempt du moindre reproche. Qu'est-ce qui fait que plus grand chose ne marche dans ce pays? Quand vous aurez apporté les réponses à ces questions, vous verrez que ça ira mieux.
On tente tous les jours d'apporter les réponses
on
à ces questions. Entre 13h et 14h, avec Olivier D'Artigol, avec Jean-Claude Dacier. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci aux auditeurs de nous avoir appelés. Merci Thierry, merci Alain. Vous restez sur Europe 1. toute la journée, on continue ensemble.
Merci beaucoup Thomas Schnell, on vous retrouve bien sûr dès demain pour Europe 1 13h de 13h à 14h et votre émission est à réécouter sur le site et l'application Europe 1. Et d'ailleurs, sur le site et l'application, profitez-en pour découvrir notre tout podcast inédit Notre-Dame de Paris, du brasier à la Renaissance, 5 ans après l'incendie et à l'occasion de sa réouverture, avec des témoignages et des archives sonores exceptionnelles.